Bonsoir à tous, nous sommes ravis d'être parmi vous ce soir. À notre tour de remercier les différents organisateurs qui ont bien voulu associer donc le laboratoire Télém, qui est un laboratoire d'historiens, enfin pas seulement, il y a aussi des géographes, quelques politologues, au sein de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Et au sein de ce laboratoire, et plus généralement d'ailleurs au sein de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, nous travaillons, nous sommes un certain nombre de chercheurs à travailler sur cette question de l'immigration, sur la question du rapport à l'altérité dans le bassin méditerranéen et pour certains d'entre nous, plus particulièrement dans la région, dans le sud-est, enfin on va le dire, dans le sud-est de la France. Ce qui nous rassemble ce soir, vous le savez, cela vient d'être dit, ce sont les fameux événements d'Aigues Mortes, hein, qui servent de toile de fond à la pièce de théâtre et à tout ce cycle de conférences, de manifestations qui accompagnent cette pièce. Et on doit finalement ces manifestations à un de nos collègues, Gérard Noiriel, qui est un spécialiste de l'histoire de l'immigration et qui a sorti en début d'année un ouvrage que certains ont peut-être lu ici, hein, Le massacre des Italiens, donc portant sur ces événements d'Aigues Mortes. Alors, il n'est pas le premier à évoquer cette question, mais il le fait de manière tout à fait renouvelée, tout à fait stimulante, dans un ouvrage qui se lit très, très aisément. Alors, à partir de ces événements, il nous est apparu intéressant de vous proposer modestement quelques réflexions autour de cette thématique, et en particulier ce soir autour du rapport entre violence et xénophobie. Et pour cela, eh bien, on a la chance d'avoir parmi nous ce soir une spécialiste de ces questions, avec ma collègue et néanmoins amie Céline Régnard. Céline Régnard, qui est une ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée d'histoire, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Provence. Céline a travaillé notamment dans le cadre de sa thèse, et ça donnait lieu à un bel ouvrage que je vous présente ici, sur la violence à Marseille, sur la question donc du rapport entre criminalité, industrialisation et société, avec quelques pages déjà, plusieurs pages même dans cet ouvrage, sur la question justement migratoire, et en particulier la violence supposée. On aura l'occasion d'y revenir, puisque ça fait partie des stéréotypes qui accompagnent le plus souvent les migrants, cette violence récurrente. Et depuis cet ouvrage, Céline a développé un certain nombre de travaux au travers de multiples articles, justement sur la question l'immigration d'une manière générale, et sous l'angle là aussi d'une forme de marginalité. Enfin, je ne vais pas en dire plus, simplement pour vous indiquer que Céline va donc nous faire sa présentation. Moi, je me permettrai peut-être d'ajouter quelques réflexions, en tout cas que je proposerai à la salle comme une forme d'introduction à une discussion plus générale à laquelle nous souhaitons vous voir participer, quoi.
Merci. À mon tour de remercier les organisatrices de cette manifestation et l'organisateur ici présent, Stéphane Mourlane, qui m'a fait l'honneur de me demander de vous parler aujourd'hui. Alors, je vais donc vous parler, essayer de faire le tour de ce vaste sujet, un petit tour, violence et xénophobie. Alors, sans vouloir enfoncer trop de portes ouvertes, je pense qu'on peut dire tout d'abord qu'il y a assez peu de sujets qui déclenchent autant de polémiques, de passions, que ceux dont je suis chargée de vous parler aujourd'hui. Et l'articulation entre les deux, violence et xénophobie, donne une dimension supplémentaire à cet enjeu. Enjeu qui est un enjeu du passé, mais aussi du présent. Car en effet, c'est peut-être ça qui frappe d'abord l'historien à qui on propose de s'arrêter sur ce thème, c'est les résonances entre le passé et le présent. Et non pas que l'histoire serve ici à donner des leçons, mais qu'elle nous permette d'inscrire une réflexion générale sur l'actualité, donc de l'inscrire dans la longue durée. Inscrire dans la longue durée afin de mettre en lumière des permanences, mais aussi des ruptures entre ce passé et ce présent. Alors, qu'est-ce que la xénophobie ? Étymologiquement, la xénophobie signifie la peur de l'étranger. Quoi de plus universel ? Est-il besoin de rappeler ici que la plupart des guerres, la plupart des conquêtes, militaires ou non, se sont faites au moyen d'une peur de l'étranger, que cette peur soit réelle, fantasmée, en tout cas mise en avant. La figure de l'autre, globalement, devient très vite celle de l'ennemi, celle qui permet de souder une communauté autour d'une identité afin de conquérir, d'administrer ou de préserver un territoire, et ça depuis les cités grecques, hein, en passant par les croisades jusqu'aux deux guerres mondiales. Donc si on réfléchit bien, ça veut dire que la xénophobie existe avant même le mot xénophobie. La xénophobie est une réalité ancienne, mais comme toujours, l'examen de l'histoire de la langue française est assez instructif. En effet, le langage, et je ne vous apprendrai rien, est une construction sociale, hein, il entérine des évolutions culturelles à une époque donnée. Or, le mot xénophobe apparaît très tard dans la langue française. C'est un mot qui apparaît en 1903, à une époque où le phénomène de rejet de l'étranger, notamment parce qu'on est dans un contexte de paroxysme de ce rejet, hein, avec l'affaire Dreyfus, est particulièrement manifeste. À l'origine, ce terme signifie donc « hostile aux étrangers », à tout ce qui vient de l'étranger. Le grand Robert de la langue française lui donne comme synonyme « chauvin ». C'est un mot qui aurait été forgé par Anatole France au moment de l'affaire Dreyfus. Donc encore une fois, dans un moment de crispation de l'identité nationale. Dans le dictionnaire de l'Académie française, en 1932, on trouve donc la définition suivante, xénophobe, qui est hostile aux étrangers, aux importations étrangères. Donc vous remarquez que de la peur, on a glissé à l'hostilité, dans la définition du mot. Et en effet, le sens commun de xénophobe, c'est bien celui de hostile à l'étranger, l'étranger qui est l'étranger proche, celui qu'on peut rencontrer, qui menace la société, l'identité nationale et l'économie nationale. Il y a une double dimension dans le terme xénophobe, une dimension à la fois politique à travers une affirmation nationaliste et une dimension économique à travers une dimension protectionniste. Et donc cette affirmation xénophobe provoque un ensemble de comportements, individuels ou collectifs d'ailleurs, hostiles aux étrangers. Et ces comportements sont multiples. Préjugés, rejet, discrimination, stigmatisation, haine et donc violence. Alors, notons tout de suite, hein, et je pense que ça va être un des aspects de notre réflexion, que pour que cela soit possible, il faut qu'une société définisse clairement qui est étranger et qui ne l'est pas. Hein. Donc tout ça n'est pas évident au départ. Alors si on veut réfléchir un petit peu maintenant sur la violence, sans vouloir là encore parler des heures, puisqu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, en tout cas dans son articulation avec la xénophobie, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que la violence est à la fois un corollaire de la xénophobie, autant dans les discours que dans les pratiques. Les discours xénophobes sont violents, mais également, et je vais en parler, les actes xénophobes sont souvent violents. Donc on perçoit une violence dans les attitudes à tous les degrés, que ce soit des attitudes verbales, mais aussi une certaine violence de l'administration, par des exclusions, par des mises à l'écart, par des stigmatisations législatives de l'étranger, et une violence également physique qui peut aller jusqu'à l'assassinat, hein, puisque là, on est en plein dans le sujet, notamment à propos des événements d'Aigues-Mortes. Donc ça, c'est une première dimension, donc la violence comme corollaire de la xénophobie. La deuxième dimension qu'il ne faut pas oublier, et je pense qu'on y reviendra, c'est que la violence est aussi une matrice du discours xénophobe. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est aussi parce que l'autre est réputé violent qu'on l'assimile à un criminel, à un barbare, et qu'il est rejeté. Donc il y a une... si vous voulez, il y a un échange entre ces deux termes-là. Il y a une... comment dire ? Il y a une articulation qui est très complexe, en fait. Hein. Ce sont deux phénomènes qui se nourrissent l'un l'autre. Alors lorsqu'on examine le temps long, et en fait, bon, pour nous plus particulièrement l'histoire contemporaine, hein, c'est-à-dire le temps qui nous sépare de la Révolution française, les deux siècles passés, on se rend compte en fait qu'il y a des moments xénophobes dont je vais essayer de vous parler. Alors je vais essayer dans un premier temps, hein, ma conférence elle va être articulée en deux temps. D'abord je vais essayer de vous décrire un petit peu une forme d'histoire de la xénophobie en fait, hein, d'essayer de mettre en évidence un rythme dans cette histoire. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de mettre en lumière des constantes, des facteurs qui peuvent expliquer cette histoire et qui, je pense, sont des clés de lecture encore pour aujourd'hui. Alors, si on veut essayer de retracer un peu l'histoire de tout ça, on se rend compte, enfin, Gérard Noiriel et d'autres historiens qui ont travaillé là-dessus, il y a beaucoup d'historiens qui travaillent là-dessus, que le thème du problème de l'immigration, du problème entre guillemets, fait irruption dans le débat public entre 1880 et 1900. Donc c'est quand même assez précis comme fourchette chronologique. C'est en fait le moment où l'opposition, en France en tout cas, entre le national et l'étranger se fixe. Opposition qui nous semble claire aujourd'hui, mais qui ne l'est pas du tout en fait avant. Donc c'est relativement récent. Et elle se fixe aussi bien dans la politique que sur la scène politique que dans le sens commun, dans l'opinion, ce qu'on appelle l'opinion. Et c'est l'époque en fait de ce qu'on pourrait appeler la matrice xénophobe en fait, le moment où le système, ce que les historiens appellent système xénophobe, que je vais essayer de vous expliquer, se met en place. Avant ce moment, il y a des heurts avec les étrangers, mais je vais vous expliquer pourquoi on est plutôt dans une préhistoire ou une proto-histoire de la xénophobie. Et après ce moment, c'est-à-dire au XXe siècle, on est dans un moment où on a des résurgences de discours xénophobes, mais en fait dans un système qui est déjà construit. Alors, en ce qui concerne donc cette préhistoire de la xénophobie, on peut remonter assez loin, si vous le voulez bien. Il est possible de trouver, même si ça paraît surprenant, une première matrice du discours politique hostile aux étrangers pendant la Révolution française. On a tous en tête de la Révolution française 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est exact, c'est un credo humaniste que livre la Révolution. Mais on a moins en tête, et c'est peut-être un tort souvent, le retournement qui se produit en 1793-94, au moment où la République est en difficulté, est en guerre, et où la scène politique devient un théâtre sanglant et dramatique. Alors, à partir de ce moment, 1793, se dessinent dans le discours politique français les grandes lignes d'un discours nationaliste, réellement, sur l'ennemi de l'intérieur, le thème de l'ennemi de l'intérieur. Discours qui, en fait, on le remarque quand on étudie les discours politiques sur le temps long, est sans cesse réactivé au cours des 19e et 20e siècles par les partis de droite et d'extrême droite. Alors à l'époque, c'est pas si clair que ça. Ce qui se fixe à ce moment-là, en fait, c'est un discours républicain profondément ambivalent qui comporte un double versant. Un versant de tradition humaniste et un versant de tradition nationaliste. Et ces deux versants du discours républicain vont structurer la culture politique française par la suite. Alors comment ça se passe concrètement ? Le comité de salut public, pour justifier la terreur, invoque la nécessité de combattre ce qu'ils appellent le parti de l'étranger. Parti qui serait conduit par des aristocrates, par des gouvernements ennemis, puisque la République est en guerre à ce moment-là. Et donc le comité de salut public fait la chasse aux espions, prend des mesures de coercition extrêmement rigoureuses contre des individus qui sont considérés à ce moment-là comme des ennemis de la Révolution. On est dans une espèce de fuite en avant de la violence politique qui donne lieu à ces discours. Et un acte législatif, comme souvent, vient fixer tout ça. Le 1er août 1793, la Convention décrète que les individus qui viennent de pays en guerre contre la République et qui ne sont pas domiciliés en France doivent être arrêtés sur le champ et expulsés du territoire national. Les autres étrangers domiciliés en France, déclarés, sont contraints de porter un ruban tricolore permettant de prouver visuellement qu'ils ont obtenu l'hospitalité. Donc voilà une première stigmatisation de l'étranger sur le sol national. Dans le même temps, il y a des dispositions extrêmement rigoureuses qui sont prises vis-à-vis de toute structure, journaux, clubs, associations, même si elles ne portent pas ce nom-là à ce moment-là, puisque la loi sur les associations date de 1901, mais en tout cas, groupes d'individus, liés par des opinions politiques. Donc tous ces groupes créés par des étrangers sont supprimés par le comité de salut public. Et l'aboutissement de tout ça, c'est qu'à la fin de l'année 1793, un étranger ne peut plus représenter, ne peut plus être un élu de la République dans ce temps trouble de l'histoire. Donc on a là affaire, si vous voulez, à un premier temps, un temps qui est souvent occulté, mais qui est quand même relativement fondateur. Toutefois, il faut quand même ici analyser un petit peu, prendre du recul par rapport à ces discours. Parce qu'en effet, si on regarde réellement l'ensemble des comportements des Français, il ne faut pas confondre discours politiques, bien sûr, qui sont extrêmement durs, hein, et la réalité, les pratiques sociales. Or, dans cette France de la fin du XVIIIe siècle, la notion d'étranger, à part pour donc les hommes politiques hein, qui la fixent à ce moment-là de manière très brève, mais dans la loi, la notion d'étranger, elle est encore très floue dans la société française en réalité. La nation elle-même n'est pas constituée. Hein. La nation, elle se constitue réellement à partir de ce moment-là. Donc, pour vous donner un exemple, à Marseille, toute personne qui n'est pas née à Marseille est considérée comme un étranger, hein, quelle que soit sa nationalité. Donc, si vous voulez, là, il y a une espèce de décalage entre ce qu'on perçoit hein, du discours politique, qui est extrêmement virulent, extrêmement dur, et qui, comme je l'ai dit, nourrit par la suite des discours nationalistes divers dans les décennies suivantes, et la réalité, les pratiques sociales. Alors tout cela évolue progressivement, notamment parce qu'au XIXe siècle, la France se modernise, la France s'industrialise, et que les populations se mettent en mouvement. Le XIXe siècle est un siècle de grands changements, où non seulement les États-nations se constituent, mais les industries modernes se mettent en place, et où les populations sont beaucoup plus mobiles. Or, ce qui est intéressant dans ce siècle, c'est que si les populations sont beaucoup plus mobiles et si les États émergent, si les États-nations émergent, les frontières sont en réalité très peu contrôlées jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et donc, le contact avec l'autre est non seulement de plus en plus fréquent, mais également de plus en plus facile. Notamment, bien entendu, dans les régions situées à proximité des frontières. Et la Provence, mais même le Languedoc, en sont des parfaits exemples. Donc il y a un décloisonnement des espaces, et l'autre, progressivement, ce n'est plus le paysan du village d'à côté, mais parfois quelqu'un qui est né dans une autre région, voire dans un autre pays. Et en fait, dès les années 1830-1840, il existe un certain nombre de violences qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de xénophobes entre des gens de régions diverses et souvent pour des prétextes économiques, sur des faits de concurrence au travail. Hein, par exemple, il a été mis en évidence qu'à Marseille, dès 1848, alors en 1848 on est dans une période de crise économique très difficile, hein, y a une forte concurrence des ouvriers entre eux. Et il est connu que des ouvriers boulangers réclament au maire de Marseille d'interdire aux ouvriers piémontais de leur prendre leur travail. Donc ce type de réaction, ce type d'hostilité épidermique qui entraîne parfois des réactions de violence est présent. Mais je ferai la même remarque ici. Hein. Autant j'ai dit que pour la Révolution française, les discours étaient un peu déconnectés des pratiques, là je dirais un peu la même chose. C'est-à-dire qu'avant la fin du XIXe siècle, l'existence de conflits avec les autres, les concurrents, ceux qu'on connaît pas bien, ceux qui représentent peut-être une nation ou une origine différente, n'est pas réellement relayée sur la scène politique. Il n'y a pas de connexion réellement qui se fait entre la sphère politique et la réalité sociale. Donc cette préhistoire là de la xénophobie, c'est un moment où en fait on entrevoit des logiques actuelles, à la fois dans les discours politiques et dans la violence qui est celle du quotidien, hein, de la dureté du quotidien, mais qui ne sont pas connectées. Là où se met en place le système xénophobe réellement, c'est bien entendu quand tout cela fait système, c'est-à-dire quand tout cela se connecte. C'est lorsque l'opinion, les pouvoirs publics et les acteurs sociaux, hein, pour le dire de manière peut-être pas très exacte, mais interagissent en fait, lorsque les discours et les pratiques se rejoignent dans une vision de l'autre qui est sous-tendu par un discours qui progressivement se construit autour de la xénophobie et du rejet de l'étranger. Alors comment ça fonctionne ? Comment ça émerge ? Alors bien sûr, tout ça est lié à un contexte politique, économique, bon, sur lequel on reviendra peut-être après, mais bon, on n'est pas là non plus pour s'étendre des heures là-dessus. Peut-être pour mettre en avant plutôt des événements fondateurs. Donc un événement fondateur de ça, avant Aigues-Mortes, c'est ce qu'on appelle les Vêpres marseillaises. Les Vêpres marseillaises, c'est un événement qui intervient en juin 1881 à Marseille, qui a été appelé comme ça en référence aux Vêpres siciliennes. Que se passe-t-il en juin 1881 à Marseille ? Les troupes françaises, l'armée française rentre de Tunisie dans la Liesse, puisque elles viennent d'asseoir leur domination sur cette partie de l'Afrique du Nord où elles étaient en rivalité, notamment avec l'Italie. Et donc elles reviennent, ces troupes débarquent sur le Vieux-Port, hein, dans la Liesse générale, dans une ferveur républicaine, hein, nationaliste, puisque la colonisation est quand même une des grandes entreprises de la Troisième République, et dans un contexte de très grande tension des relations entre la France et l'Italie. Mais vous n'êtes pas sans savoir que à Marseille, en 1881, vivent beaucoup d'Italiens. Le climat est déjà relativement tendu. Hein. Et un événement met le feu aux poudres sur le Vieux-Port, à l'angle de l'actuelle rue de la République, hein, au premier étage d'un immeuble, est situé un club italien, duquel des témoins déclarent avoir entendu des sifflets. Hein. Donc le drapeau français aurait été sifflé par des Italiens. De là, un déchaînement de violence anti-italienne à Marseille, qui dure une semaine entière, dans laquelle on assiste à des courses-poursuites, hein, dans les rues de la vieille ville, entre des groupes de jeunes hommes qui veulent en découdre, à la fois du côté marseillais et du côté italien. Donc plusieurs morts. Et voilà pour l'événement. Cet événement, comme toujours, il y a l'événement et puis il y a ce qu'il devient. Il y a l'écho qui lui est fait. Cet événement est un des événements fondateurs de l'histoire de la xénophobie en France. Pourquoi ? Parce que l'antagonisme sous-jacent entre Français et Italiens, toutes les rancœurs accumulées vont éclater à ce moment-là, et que la presse, qui est une presse déjà nationale, hein, une presse à très, très grand tirage en 1881, va s'emparer en fait de ce fait divers pour en faire le symbole de la perfidie, de la traîtrise de l'Italien. Le personnage de l'Italien criminel, de l'Italien violent, traître, le thème du coup de poignard dans le dos, il est très largement véhiculé par cette presse à partir de ce moment-là. C'est un discours qui est relayé donc par la presse, un discours qui se structure autour de l'identité. Donc nous, les Français, contre eux, les Italiens, nous, les civilisés, contre eux, les primitifs. Hein. Et donc il y a toute une rhétorique en fait qui se développe, qu'on pourrait qualifier tout à fait de rhétorique de la connivence, entre les gens qui écrivent et qui relayent dans cette presse ces faits et l'analyse qui en est donnée, et les lecteurs. Et en fait, cette rhétorique de la connivence, elle a des effets très puissants, parce que elle met en place des stéréotypes qui ensuite vont sans cesse occuper ce qu'on appelle les imaginaires, les représentations, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas les inconscients collectifs, et qui vont faire partie du discours mobilisé à chaque fois qu'on va parler des étrangers. Et c'est à ce moment-là que le mot « immigré » apparaît dans la presse. Alors parallèlement à ça, ou en lien avec ça, dans les années 1881 jusqu'en 1885, le thème de l'immigration est relayé par la politique. Et c'est là qu'on voit en fait la connexion entre les faits divers, la presse et la politique. En 1883, dans le débat parlementaire français, c'est le moment où le thème de l'immigration fait son apparition. Plusieurs projets de loi sont déposés pour demander de taxer les étrangers qui travaillent en France. Alors c'est bien sûr pas anodin, c'est parce qu'on est dans une période assez tendue sur le plan économique, je vais y revenir tout à l'heure. Mais c'est là où se met en place cette équation extrêmement ambiguë, toujours, entre la question du travail et la question nationale. Et bien sûr, tout cela ouvre un très large espace politique à des combinaisons variables autour du thème de la protection du travail national. Donc je vous parle de ce moment, c'est un moment fondateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce débat ne cesse pas jusqu'à la Première Guerre mondiale. De 1883 à 1914, il y a une soixantaine de projets de loi, ce qui est énorme, qui sont déposés proposant de taxer les ouvriers étrangers. Donc on est dans un contexte protectionniste. Et surtout, enfin moi, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est qu'en fait, on aperçoit là un glissement. Quelque chose a changé par rapport à la période dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui a changé, c'est que à la violence physique, qui a toujours existé certainement, vient répondre une violence du discours, et du discours politique et médiatique en particulier. Discours qui, à son tour, structure, donne à la fois des termes et des armes aux violences de la rue. Donc il y a un système, en fait, qui se nourrit. Ce qu'on voit très bien dans les années 90, 1900, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est une augmentation du nombre des violences xénophobes, en fait. Ce discours de l'étranger criminel, etc., est mobilisé par les acteurs de ces violences. Dans le Nord, ce sont les Belges qui sont victimes de ces violences. Ailleurs, ce seront les Espagnols, plus tard les Polonais. Donc il y a une constante, en fait, de la mobilisation de ces discours envers celui qui représente l'autre. Et en fait, ce qui est très manifeste, c'est que à leur tour, ces rixes xénophobes viennent servent d'aiguillon à ce discours. Et c'est tout à fait ce qui se passe à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, donc 17 août 1893, qu'est-ce qui se passe? La compagnie des Salins du Midi utilise de manière, pour la récolte du sel, utilise des saisonniers. Elle utilise des saisonniers de diverses provenances. Des Italiens, mais aussi ceux que Noiriel appelle les trimards, qui sont en fait des gens qui sont un peu en rupture de banc et qui souvent sont des gens qui viennent des Cévennes, des Montagnards, des Auvergnats, et qui descendent faire des travaux saisonniers parce que ce sont des gens qui ont besoin de travailler. Et la compagnie des Salins du Midi fait travailler des équipes d'ouvriers, un travail extrêmement dur qui est le levage du sel. Après le séchage, il faut faire des montagnes de sel. Or, sont constituées des équipes où il y a à la fois des Italiens et ces fameux trimards, ces fameux vagabonds. Mais les deux groupes cohabitent en fait tant bien que mal. Les Italiens ont une réelle, c'est ce que montre très bien Noiriel dans son livre, ont une réelle culture physique du travail. Les Italiens sont souvent des Piémontais, très forts physiquement, habitués à des travaux très rudes. Et là, on est en plein été, en plein mois d'août, à Aigues-Mortes, quasiment sans eau, donc c'est vraiment extrêmement difficile. Tandis que les trimards, qui sont beaucoup plus des marginaux, sont moins entraînés. Et en fait, ce qui se passe, l'événement déclencheur, c'est un problème tout simplement de salaire. Les Italiens et les Piémontais et les trimards en viennent aux mains pour une raison qui reste encore relativement obscure aujourd'hui, parce que les trimards auraient ralenti la cadence et mis en péril le pécule très important que les Italiens espéraient gagner à l'issue de cet ouvrage. Tout cela se passe à Aigues-Mortes, en dehors de la ville, mais le fait qu'une rixe en 1893 oppose trimards à Italiens dans un marais salant provoque une rumeur incroyable à Aigues-Mortes. Les Italiens ont attaqué. Et là, sont réactivés un ensemble de peurs, de clichés. C'est normal, ce sont des criminels, ce sont des barbares. Et les Aigues-Mortais prennent les armes contre les Italiens et appellent à la chasse à l'ours, c'est-à-dire à la chasse à l'Italien. De là, des morts, et comme l'a très bien montré Gérard Noiriel, la mobilisation d'un langage xénophobe dans un événement qui, en réalité, au départ, est un fait divers. Bon, on reviendra peut-être sur ce jugement, un acquittement quasiment général, des grands scandales judiciaires de l'histoire de la République. Ce qui est intéressant, là aussi, comme dans l'affaire des Vêpres marseillaises, c'est les conséquences politiques de cette affaire. Parce qu'en fait, là encore, la rivalité entre la France et l'Italie s'en trouve extrêmement aggravée. La France est quasiment mise au banc des nations européennes pour l'indulgence dont elle a fait preuve vis-à-vis de ces criminels qui ont tué des Italiens, qui ont du sang sur les mains. incidence donc sur les relations entre les deux pays et sur l'équilibre européen hein, également. Là, on est proche de la guerre à ce moment-là. Incidence sur les phénomènes migratoires puisque un certain nombre d'Italiens quittent la région à l'issue de ces événements. Incidence sur les rapports, d'une manière générale, entre piémontais et plus largement italiens et locaux. Dans les années, à la fin des années 1890, à Marseille, l'événement d'Aigues Mortes revient périodiquement dans les frictions du quotidien, que ce soit dans le monde du travail, et on entend souvent le cri de Aigues Mortes dans les manifestations. Ce souvenir est extrêmement présent et témoigne de ce raidissement des positions entre les communautés. Alors, il faut quand même bien faire attention à une chose ici, et je pense que c'est un des mérites de Gérard Noiriel de l'avoir montré. À Marseille comme à Aigues Mortes, en 1881 comme en 1893, les mots xénophobie ou racisme, d'ailleurs, peut-être qu'on reviendra sur la distinction entre les deux, ne sont pas utilisés par les acteurs de violence. Ces événements, en fait, ce sont davantage des haines qui dérapent, auxquelles des appartenances identitaires viennent se surajouter. En d'autres termes, plutôt que de dire ils ont tué des Italiens parce qu'ils se sentaient français ou parce qu'ils étaient racistes, ce qui serait une reconstruction de notre part, hein, a posteriori, il vaudrait mieux dire que ces gens ont utilisé l'arme de la nationalité, de l'identité, afin de légitimer une violence qu'ils ont commise, qui était en eux, de sauver la face aussi devant la justice. Alors donc, à partir de ces événements, un certain nombre d'événements fondateurs et de la reprise de ces événements dans le discours politique, on entre dans une période où la figure de l'étranger, globalement, devient, comme sous la Révolution, la figure de l'ennemi intérieur, mais où cette figure de l'ennemi, elle est relayée totalement, non seulement par la presse, mais également dans l'opinion. Et bien entendu, tout cela comporte une dimension extrêmement violente. Alors, quelques éléments, rapidement ici. Bien entendu, les deux guerres, celles de 1870 et de 1914, accentuent tout à fait ce penchant à la racialisation de l'ennemi, puisque le premier usage du mot « race » à la toute fin du XIXe siècle, et qui ressurgit dans les années 20, il est bien celui de la race française par opposition à la race allemande. Quand Maurras déclare qu'il est raciste, c'est une façon, d'ailleurs c'est l'adjectif hein, qui est employé d'abord, avant le nom racisme, donc quand Maurras déclare qu'il est raciste, c'est une façon d'exprimer son amour de son pays, son appartenance à la nation, face aux cochons d'Allemands, hein, ou aux cochons de Prussiens. Hein. Donc les guerres nourrissent en fait le discours d'essentialisation de l'ennemi. L'étranger devient l'ennemi. Ça s'ajoute bien évidemment à un contexte culturel qui est celui dans la croyance scientifique, dans l'existence des races, de laquelle découle une profonde hantise du mélange de ces races, du mélange du métissage d'une manière générale, qui serait à l'origine d'une dégénérescence des races pures. Donc le rôle des guerres est important à souligner. Le rôle d'un certain nombre de faits politiques est également important à souligner dans cette période. L'étranger devient d'autant plus l'ennemi qu'il est assimilé à un danger. Et on retrouve ici la violence, mais pas dans une acception violence quotidienne, mais dans une acception de violence politique. En effet, en 1894, Sadi Carnot est assassiné par un anarchiste italien. En 1934, nouvel assassinat. Alexandre de Yougoslavie et le ministre des Affaires étrangères, Barthou, à Marseille. Et tout cela, tous ces faits, qui sont en fait des faits politiques, qui sont bien entendu la résultante à la fois de la montée de l'anarchisme, mais également de tensions internationales, renforcent cette figure de l'étranger criminel. Les discours s'entrecroisent. Le criminel, c'est à la fois l'Italien qui va vous donner un coup de couteau dans la rue, mais également l'Allemand qui est votre ennemi héréditaire, qui vous a pris l'Alsace-Lorraine, et l'anarchiste qui va faire basculer l'ordre politique et l'ordre public. Et enfin, dans cette période, bien évidemment, il y a l'affaire Dreyfus. Et là, à cette figure de l'étranger, de l'ennemi étranger, de l'ennemi intérieur, se surimpose la figure du traître, la figure du juif. Et c'est là où, en fait, l'antisémitisme rejoint le discours nationaliste et xénophobe. Alors, de l'affaire Dreyfus, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que ça polarise la vie politique française entre, grosso modo, un pôle nationaliste et un pôle humaniste. Hein. On a coutume de dire que c'est vraiment la naissance de la séparation entre le discours de droite et de gauche. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que à la lumière de l'ensemble de ces événements, à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, il y a un réel système xénophobe qui s'est mis en place. Et pourquoi on parle de système ? Parce qu'en fait, il existe à plusieurs niveaux, à la fois dans la réalité, mais également dans les discours et également dans les faits divers, dans l'opinion. Bon, je ne l'ai pas mentionné ici, mais bien évidemment, les discours scientifiques, les discours d'experts sont mis au profit de ce système, sont à la fois le nourrissent et sont utilisés par lui. À partir de là, le XXe siècle peut se lire quelque part comme une résurgence périodique du système xénophobe, en fonction d'un certain nombre de facteurs d'ailleurs dont je vais parler après. Donc je ne vais pas vous parler de l'ensemble du XXe siècle parce que ce serait beaucoup trop long, mais on peut parler, je pense, de deux périodes. On peut parler des années 30, des années 1930, qui sont bien entendu sur le plan politique des années où la République est profondément en danger, des années extrêmement chamboulées, marquées en Europe par l'émergence, alors là pour le coup, des fascismes hein, et d'un certain nombre de discours politiques extrémistes. Alors qu'est-ce qu'on peut noter là-dessus ? Les rixes xénophobes, bien sûr, n'ont absolument pas disparu. Elles n'ont pas disparu dans les années 30, elles resurgissent, notamment parce que le contexte politique et économique est extrêmement tendu. Ce qu'on peut noter, c'est que, bien entendu, leurs cibles se sont élargies, puisqu'on n'a plus uniquement en France essentiellement des Italiens et des Espagnols, mais on a des Arméniens, des Russes, des Juifs d'Europe de l'Est, des Algériens. Donc, parallèlement, si vous voulez, à l'évolution de l'histoire de l'immigration, qui est l'histoire quelque part de l'élargissement des courants migratoires, bah, les victimes de la vindicte xénophobe, elles se multiplient et elles sont de plus en plus diverses. Là encore, ces violences font écho à des violences politiques et à une récupération, d'une manière générale, dans le discours politique, du thème de l'étranger. En 1934, la République est littéralement assaillie par les ligues, notamment les ligues d'extrême droite, notamment le 6 février, dans une crise qui est une crise politique majeure de l'histoire de France. Et ce qui se scelle dans ces années 30, c'est un discours politique d'extrême droite extrêmement rodé, qui se structure notamment autour de la matrice notamment de l'Action française, et qui est également relayé par la presse. Alors, il y a une presse bien évidemment populiste qui se charge de se faire l'écho d'un discours anti-parlementaire, anti-républicain, nationaliste et bien entendu structuré autour d'une vision de l'autre qui est la figure même de l'ennemi, hein, de celui qui menace à la fois la santé, la stabilité de la nation française. Alors lorsqu'on lit par exemple les éditoriaux d'un journal comme Gringoire, hein, qui est un des grands journaux de cette mouvance politique, on constate qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ces éditoriaux arrivent à modeler les attentes de l'opinion par une connivence, là encore, entre celui qui écrit et son lecteur. Ce sont des journaux avec des tirages tout à fait spectaculaires et dont les tirages augmentent dans les années 30 de manière très très importante. En 1930, pour vous donner une idée, Gringoire tire à 260 000 exemplaires. En 1936, il tire à 460 000 exemplaires. Et tout ça autour d'éditoriaux qui sont structurés derrière des évidences, derrière du sens commun. Hein. C'est pas réellement un discours scientifiquement xénophobe. Tout le monde sait bien que ces gens ne sont pas comme nous. Ça tombe sous le sens. Hein. Donc c'est un discours de l'évidence qui en plus s'appuie sur un certain nombre de faits divers et qui vise à créer chez le lecteur une espèce de satisfaction narcissique presque, de voir les attentes en fait, les attentes confuses couchées sur le papier. Donc voilà, ces années 30, qui sont des années extrêmement troubles, où la République manque de basculer, et où là encore on retrouve cette fragilité, ces discours politiques extrêmement violents, dans lesquels d'ailleurs Vichy trouve un certain nombre d'éléments qui ressurgiront par la suite. Éléments qui sont relayés par des faits divers d'une très grande violence. Il y a des assassinats racistes d'Algériens, par exemple, dès les années 20, mais il y en a encore après, et par une presse d'opinion très 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 violente. L'autre temps qu'on peut mettre en évidence, ce sont les années 1970. Là encore, je prendrai un exemple qui n'est pas finalement si lointain, mais qui paradoxalement est relativement oublié. C'est la flambée raciste qui secoue Marseille en 1973. Flambée raciste qui a pour point de départ l'assassinat en centre-ville d'un chauffeur d'un tramino marseillais par un déséquilibré, par un fou algérien. Assassinat qui déclenche au mois d'août 1973 une flambée xénophobe dans Marseille et là encore une chasse à l'Algérien. En un mois, 12 personnes sont victimes d'attentats racistes à Marseille et dans la région. Et là encore, il y a le fait divers et puis il y a la manière dont la presse s'en empare. Le lendemain, Gabriel Domenech, qui est un éditorialiste qui a été proche de l'OAS, donc pour situer un petit peu l'appartenance idéologique de ce monsieur, publie un édito absolument assassin, enfin très violent dans le discours, dans le Méridional. Édito dont je vais vous lire, dont je vais vous donner un extrait. La folie n'est pas une excuse. Cet assassin, les pouvoirs publics sont gravement coupables de l'avoir laissé pénétrer sur notre territoire. Nous en avons assez. Assez de voleurs algériens, assez de casseurs algériens, assez de fanfarons algériens, assez de trublions algériens, assez de syphilitiques algériens, assez de violeurs algériens, assez de proxénètes algériens, assez de fous algériens, assez de tueurs algériens. Il faut trouver un moyen de les marquer et de leur interdire l'accès au sol français. Un jour ou l'autre, il faudra employer les CRS, les gardes mobiles, les chiens, policiers, pour détruire les casbahs marseillaises, si d'ores et déjà des mesures ne sont pas prises pour limiter l'immigration algérienne et toutes les plaies sociales qui en découlent. Ne se sentant pas protégés, les citoyens risquent d'avoir recours à des actes de justice directs qui ne pourront qu'entraîner le désordre. Alors, bon, il y a une violence du discours. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'ensemble des clichés envers les étrangers qui sont rassemblés ici. À la fois l'étranger porteur de maladies, de dangers, de crimes, de folies, de dangers pour la race, pour la nation, pour la santé réellement de la population française. Mais il y a aussi, à peine voilé, un appel à la vindicte. Avoir recours à des actes de justice directe. Donc, sous couvert d'alarmer les pouvoirs publics, en réalité, il y a un appel tout simplement à prendre les armes. Donc, tout ça est extrêmement violent. D'ailleurs, c'est un appel qui sera suivi des faits. Alors, il faut rappeler quand même qu'à ce moment-là, le contexte est extrêmement tendu, que l'Algérie et la France sortent d'un conflit qui a laissé des traces, notamment à Marseille, puisqu'à Marseille sont venus s'établir beaucoup d'anciens... d'anciens Français d'Algérie. Et qu'également, à Marseille, il y a une communauté algérienne extrêmement importante. Donc c'est pas un hasard si ce discours, si ces faits trouvent naissance dans ce qu'on pourrait appeler un terreau marseillais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est également la manière dont la presse locale et la presse nationale se répondent dans ces affaires-là. Puisque finalement, le Méridional, bon, c'est un journal... de la mouvance de droite, voire d'extrême droite locale, mais ça aurait pu très bien en rester là. Simplement, dans cette année 1973, ce qui est intéressant, c'est que les médias nationaux se font le relais d'un problème marseillais. Et Marseille devient, c'est d'ailleurs le moment où Marseille devient le symbole du problème raciste en France. Et en fait, c'est un de nos camarades qui a très bien analysé ça, Yvan Gasteau, qui montre que Marseille devient à la fois le symbole et en même temps la mauvaise élève de la France. Marseille devient le symbole du racisme. C'est à propos de Marseille qu'on parle, qu'on pose la question. Mais les Français sont-ils racistes finalement, hein? Et qu'un certain nombre d'émissions de télévision, Le Nouvel Observateur, tout cela occupe le débat médiatique. C'est à propos de Marseille que cette fameuse idée qu'on entend encore souvent en ce moment du seuil de tolérance dans la société est avancée. C'est-à-dire que la société française serait capable d'accueillir en son sein un certain nombre d'étrangers, mais qu'il y aurait un seuil à pas dépasser. Seuil au-delà duquel toute possibilité d'intégration serait dépassée et que les barrières seraient ouvertes pour la violence. Bon, bien entendu, on sait ce qui se passe après, hein, le problème n'est pas résolu. La crise économique intervenant, Marseille devient un des premiers bastions du Front National, notamment avec les élections municipales de 1983. Où le Front National récolte deux fois plus de voix à Marseille que dans la moyenne nationale. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il perce sur le plan national, sur le plan politique. Alors au-delà des années 70, bien évidemment, la violence xénophobe, c'est une réalité qui persiste. Dans les manifestations contre la loi de Vaquet en 1986, il y a un crime raciste. En 1995, en pleine campagne présidentielle à Marseille, il y a un Comorien qui est assassiné par des colleurs d'affiches du Front National. Donc tout cela est extrêmement... ressurgit. Tout le monde sait très bien ici que le succès du Front National se fait sur la récupération de ce thème xénophobe, de cette matrice xénophobe dont j'ai essayé de vous montrer la mise en place et un certain nombre des arguments. Bon, depuis, ce qu'on peut dire, c'est qu'une certaine droite républicaine, c'est le moins qu'on puisse dire, a quand même procédé à une récupération de ce discours, et qu'il faut aussi pointer ce fait. Alors, je vais arrêter de vous parler de l'histoire de la xénophobie pour essayer de mettre en évidence maintenant un certain nombre de constantes, un certain nombre de facteurs, comme on dit. Facteurs que je vais essayer d'analyser dans un premier temps du point de vue de l'histoire classique, et puis dans un deuxième temps du point de vue plus de l'anthropologie et de la sociologie. Donc qu'est-ce que ces disciplines, finalement, ces disciplines sœurs des sciences humaines, que Noiriel mobilise d'ailleurs de manière quasiment égale hein, dans sa réflexion, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter pour expliquer la violence xénophobe ou la xénophobie violente, comme on veut. Alors, du point de vue de l'histoire, l'aspect qui paraît tout à fait frappant, c'est le rôle du contexte économique là-dedans. Beaucoup d'historiens, dont je fais partie d'ailleurs, mettent en évidence le fait que le système xénophobe intervient juste après la première grande vague migratoire en France. Première grande vague migratoire des années 70-80, qui est très profondément liée à l'industrialisation de la France et aux besoins de main-d'œuvre. D'autre part, la xénophobie est réactivée après chacune de ces grandes vagues migratoires qui chacune correspond à un temps très important du développement économique français. Que ce soit les années 1920, entrée dans la grande industrie, ou les années 1960, 30 glorieuses. Donc à l'issue ou à la suite de chaque grande vague de développement économique qui est liée à un appel à la main d'œuvre et à une grande vague migratoire, développement de la xénophobie. C'est à ce moment-là, dans ces périodes qui sont évidemment des périodes à l'issue des périodes de croissance, des périodes plus difficiles, des périodes de récession. Hein. À la fin du 19e siècle, c'est la Grande Dépression. Dans les années 30, c'est la crise de 1929. Et dans les années 70, c'est les conséquences du choc pétrolier. C'est à ce moment-là que le thème de la concurrence entre ouvriers vient nourrir la matrice xénophobe. Mais c'est un phénomène à pas simplifier. C'est un phénomène à pas simplifier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde bien les faits, et notamment la structure du marché du travail, c'est un discours relativement peu fondé dans la réalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas des effets structurants. Mais le discours de « vous êtes nos concurrents, c'est insupportable, etc. » ne fonctionne pas réellement, du moins pas toujours. En fait, ce qui est très remarquable, c'est qu'en général, les immigrés prennent la place que les Français ne veulent plus. Donc le discours de la concurrence, quelque part, ne tient pas forcément. Il n'empêche que c'est le discours qui est mobilisé. Parce que c'est le ressenti qui est verbalisé. D'autre part, des historiens l'ont montré, le marché du travail, le monde du travail, c'est à la fois un monde violent, un monde d'affrontement, mais c'est aussi un monde qui structure et qui favorise l'intégration, notamment par le vecteur syndical. Donc, premier élément de contexte, l'économie. Deuxième élément de contexte que j'ai essayé de montrer, l'émergence de ce qu'on pourrait appeler la culture de masse. Et en particulier l'émergence de la presse de masse, des médias. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, l'arrivée de la Troisième République en 1870 correspond à un moment à la fois d'unification nationale, mais également un moment de mise en place des grands médias nationaux. Et l'un a besoin de l'autre. La République a besoin des lecteurs. Et les médias ont besoin de lecteurs. Et donc, il y a beaucoup d'historiens qui ont montré comment le fait divers est un moyen de faire vendre et combien la presse est un relais pour ces discours. Et je crois que cette remarque est toujours valable aujourd'hui. Si on se penche maintenant du côté de l'anthropologie et de la sociologie, là, on va passer dans des explications de la violence, qui sont des explications qui font beaucoup plus appel à des concepts tels que l'identité, l'honneur, qu'est-ce que c'est que moi, qu'est-ce que c'est que l'autre. Beaucoup d'historiens ont mis en évidence à quel point les violences xénophobes sont ritualisées. Il y a en général un événement déclencheur, et, comment on pourrait dire, c'est réplique. Il y a un séisme et c'est réplique. Et dans les répliques, il y a une dimension d'identité, une dimension collective, une dimension de fédération d'une communauté autour d'un discours nationaliste qui se fait jour. En fait, on retrouve ici des choses qui préexistaient. Les communautés rurales, en particulier, les villages, se sont toujours affrontés de cette manière. Les jeunes hommes des villages dans la France rurale du XIXe siècle se sont toujours battus pour l'honneur de la communauté, pour le marché matrimonial, pour savoir quel était le village le plus fort, le village dominant. Tout ça fait partie du langage de l'honneur, de la virilité, tel qu'il peut être mis en évidence par les anthropologues. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ces fonctionnements, ou plutôt le discours nationaliste et xénophobe, mis au service de ces phénomènes. Dernier élément, et j'aurais... terminé, ce que je voulais vous dire, c'est que le discours xénophobe prend sa source, en général, dans un phénomène de déclassement social. L'honneur est une notion qui est d'autant plus mise en avant que la situation de déclassement social est forte. Et les gens qui sont touchés par la crise, que ce soit les classes moyennes ou les ouvriers, utilisent le discours nationaliste pour se valoriser par rapport à ceux qui, en fait, leur sont trop semblables. C'est un peu ce qu'il leur reste pour se distinguer des autres. Et on trouve en fait dans la dénonciation des étrangers, hein, à beaucoup d'époques, et dans plusieurs lieux, pas seulement dans les années 30 ni sous Vichy, on trouve des réflexes de ce type. Le Front National, quelque part, a traduit dans le langage politique ce sentiment qu'on pourrait appeler d'inégalité retourné, qui touche les individus menacés ou déclassés par les crises économiques. Alors, la dernière chose à laquelle je pense qu'il faut être attentif, c'est que cette insistance sur le fait que ce discours il trouve sa source dans le déclassement ne doit pas pour autant stigmatiser les gens qui produisent ces discours. Parce que ces gens produisent ce discours parce qu'on a mis à leur disposition le langage pour les produire. Gérard Noiriel, il met très bien en évidence la façon dont la figure de l'ennemi, ça a tantôt été, quand le modèle communiste était le plus fort, l'ouvrier, et tantôt était aujourd'hui le jeune immigré. Hein. Et donc il y a quelque part une responsabilité aussi du politique et d'une manière générale du langage des élites dans le façonnement d'un langage et d'une identité et de concepts qui sont distillés dans l'opinion publique et qui sont réutilisés par ceux qui ont besoin d'armes pour affirmer leur identité. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Si tu...